J'ai suivi le conseil de ma mère et je me suis lancé à corps perdu dans ma toute première campagne politique. Je ris aujourd'hui en songeant à quel point elle était rudimentaire. Guère plus sophistiquée qu'une campagne pour être élu délégué de classe. Pas d'équipe de sondage, pas d'analyste, pas de spot télé ou radio. J'ai annoncé ma candidature le 19 septembre 1995 au Ramada Inn à Hyde Park, entre deux coupelles de chips et de bretzel, devant 200 ou 300 sympathisants, qui, pour le quart d'entre eux, étaient des membres de la famille de Michel. Notre programme consistait en une affichette d'environ 10 cm par 20, sur laquelle figurait un portrait de moi qui ressemblait plutôt à une photo de passeport, quelques lignes résumant mon parcours, et une liste de 4 ou 5 idées générales que j'avais moi-même rédigées sur mon ordinateur, avant d'aller faire imprimer le tout au magasin de photocopie du coin de la rue. J'ai tout de même tenu à engager deux vieux routiers de la politique que j'avais rencontrés sur le projet Vote. Carole Anne Harwell, ma directrice de campagne, était grande et d'un naturel impertinent. La petite quarantaine, elle s'était mise en congé de son poste de conseillère dans une circonscription du West Side pour venir me prêter main forte. Même si elle donnait l'impression d'être d'une humeur toujours légère et joyeuse que rien ne pouvait entamer, elle savait parfaitement naviguer dans les eaux troubles et impitoyables de la politique telle qu'elle se pratiquait à Chicago. Ron Davis, un type aux allures de grizzly, était notre expert en parrainage et supervisait les équipes sur le terrain. Il avait une coiffure afro poivre et sel, une fine barbe hirsute et d'épaisses lunettes à monture métallique. Sa masse colossale dissimulée sous la chemise noire qu'il semblait porter tous les jours, sortie par-dessus le pantalon. Ron s'est bientôt révélé indispensable. Les règles d'éligibilité dans l'Illinois étaient très strictes, conçues pour compliquer la vie aux aspirants candidats qui ne bénéficiaient pas du soutien d'un parti. Pour avoir le droit de se présenter, il fallait obtenir la signature de plus de 700 électeurs inscrits sur les listes de la circonscription. Puis ces parrainages devaient être visés et approuvés par un résident de cette même circonscription. Pour être valide, chaque signature devait être bien lisible, correspondre à une adresse complète et émaner d'un électeur dûment inscrit sur les listes. Je me souviens encore de la première fois où nous nous sommes réunis chez moi, à la table de la salle à manger, autour de Ron qui soufflait comme un bœuf en nous distribuant les formulaires de parrainage attachés à des porte-blocs, ainsi que les registres électoraux et une feuille d'instruction. J'ai suggéré que nous commencions, avant de nous occuper de cette histoire de signature, par organiser des rencontres pour permettre aux électeurs de mieux connaître le candidat, et peut-être aussi par rédiger une note de synthèse sur nos positions. Carole et Ron se sont regardés et ont éclaté de rire. « Boss, je vais te dire un truc », a commencé Carole. « Ce genre de conneries pour les bonnes femmes de la Ligue de Défense des Électrices, tu peux les garder pour après la bataille. Pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est les signatures. Les gars que tu as en face de toi, ils vont les passer au peigne fin pour vérifier que tout est réglo. S'ils trouvent quelque chose qui coince, tu resteras sur le banc de touche. Et on aura beau faire ça le plus scrupuleusement du monde, au bout du compte, une bonne moitié de ces signatures seront invalidées. C'est pour ça qu'il faut qu'on en récolte au moins deux fois plus que ce qu'ils demandent. Quatre fois plus, » a rectifié Ron en me tendant un porte-bloc. Autant pour moi. Je me suis donc rendu dans l'un des quartiers choisis par Ron pour récolter des signatures. J'avais l'impression d'être revenu à mes débuts dans l'organisation associative, à faire ainsi du porte-à-porte. Parfois, les gens n'étaient pas chez eux, d'autres refusaient de m'ouvrir. Je me retrouvais nez à nez avec des femmes en bigoudi, une kyrielle d'enfants dans les pattes, tandis que le mari travaillait dans le jardin, ou avec des jeunes en t-shirt, du rack sur le crâne, l'haleine chargée d'alcool, qui jetaient des regards nerveux à droite et à gauche. Il y avait aussi ceux qui voulaient me parler des problèmes de l'école du coin, ou des armes à feu qui pullulaient dans leur quartier populaire, autrefois tranquille. Mais la plupart du temps, les gens prenaient le porte-bloc, se dépêchaient de signer, puis retournaient vaquer à leurs affaires. Si j'avais une certaine habitude de ce genre de démarche, c'était une expérience inédite en revanche pour Michel, qui avait décidé de jouer le jeu et de consacrer une partie de son temps à m'aider le week-end. Elle récoltait souvent plus de signatures que moi, son sourire éblouissant et les anecdotes qu'elle racontait aux gens sur son enfance dans le quartier n'y étaient sans doute pas pour rien. Mais deux heures plus tard, elle ne souriait plus du tout quand nous remontions en voiture pour rentrer à la maison. « Tout ce que je sais, m'a-t-elle dit un jour, c'est que je dois vraiment t'aimer beaucoup pour passer mes samedis matins à faire ça. » En l'espace de quelques mois, nous avons réussi à récolter quatre fois plus de parrainages que le nombre requis. Quand je ne travaillais pas au cabinet ou à l'université, j'allais à la rencontre des électeurs dans des associations de quartier, des réunions de paroisse ou des maisons de retraite, pour les convaincre de voter pour moi. je n'étais pas très bon. Mon discours était emprunté, jargonnant, et il manquait singulièrement d'humour et d'inspiration. Et puis, parler de moi ne me mettait pas très à l'aise. À l'époque où j'animais des groupes d'initiative sociale, j'avais appris à toujours rester en retrait pour laisser parler les autres. J'ai cependant fini par faire des progrès. Je me suis détendu, et peu à peu, les rangs de mes supporters se sont étoffés. J'ai engrangé le soutien officiel de plusieurs élus locaux, d'hommes d'église, ainsi que d'une poignée d'organisations. J'ai même réussi à obtenir qu'on rédige des notes de synthèse sur nos positions. Et j'aimerais pouvoir dire que c'est ainsi que s'est terminée ma première campagne. Le jeune candidat fougueux et sa superbe épouse, pleine de sagesse et de patience, réunis avec quelques amis dans leur salle à manger, puis ralliés par la foule autour d'un projet politique innovant. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. En août 1995, Mel Reynolds, notre député tombé en disgrâce, a finalement été reconnu coupable et condamné à une peine de prison. Une élection partielle anticipée aurait donc lieu à la fin du mois de novembre. Dès que le calendrier a été officiellement fixé, Alice Palmer a été rejointe dans la course par d'autres candidats désireux de s'emparer du siège vacant, parmi lesquels Jesse Jackson Jr., qui avait attiré l'attention des grands médias nationaux grâce au vibrant discours d'introduction qu'il avait prononcé pour son père, Jesse Jackson, lors de la convention démocrate en 1988. Michel et moi connaissions Jesse Jr. et l'aimions beaucoup. Sa sœur, Santita, l'une des meilleures amies de Michel à l'époque du lycée, avait été demoiselle d'honneur à notre mariage. Il jouissait d'une popularité assez grande pour que l'annonce de sa candidature bouscule aussitôt l'équilibre des forces en présence, réduisant considérablement les chances d'Alice. Et dans la mesure où cette élection anticipée allait avoir lieu quelques semaines avant la date limite du dépôt des parrainages pour le siège d'Alice au Sénat de l'Illinois, mon équipe a commencé à s'inquiéter. « Tu ferais bien de t'assurer qu'Alice ne te prépare pas un sale coup en douce au cas où elle perdrait contre Jesse Jr. », m'a dit Ron. J'ai secoué la tête. Elle m'a promis qu'elle ne se représenterait pas. Elle m'a donné sa parole d'honneur et elle l'a dit publiquement, y compris dans la presse. « D'accord, Barack, mais tu voudrais bien vérifier quand même, s'il te plaît ?» J'ai donc appelé Alice, qui m'a une nouvelle fois assuré que, quoi qu'il arrive dans la course au Congrès, elle n'avait pas l'intention de revenir à la politique locale. Mais quand Jesse Jr. a remporté haut la main l'élection anticipée, Alice terminant loin derrière en troisième position, quelque chose a changé. Des rumeurs ont commencé à circuler dans la presse sur une campagne en sa faveur pour qu'elle retrouve son siège au Sénat de l'Illinois. Quelques-uns de ses partisans de longue date ont demandé à me voir et, quand je suis arrivé devant eux, ils m'ont conseillé de retirer ma candidature. La communauté ne pouvait pas se permettre de renoncer à quelqu'un d'aussi expérimenté qu'Alice, m'ont-ils dit. Il fallait que je sois patient. Mon tour viendrait. J'ai défendu mes positions. Beaucoup de bénévoles et de donateurs avaient déjà investi dans la campagne, après tout. J'avais toujours soutenu Alice, même après l'entrée en lice de Jesse Jr., mais mon auditoire est resté de marbre. Quand j'ai fini par discuter de la situation avec Alice, j'ai compris vers quelle issue on se dirigeait. Une semaine plus tard, elle tenait une conférence de presse à Springfield pour annoncer qu'elle lançait sa propre campagne de parrainage juste avant la date limite du dépôt des signatures, afin de pouvoir être déclarée éligible et briguer sa propre succession au Sénat. « Qu'est-ce que je t'avais dit ?» a lâché Carole en tirant sur sa cigarette et en soufflant un fin serpentin de fumée vers le plafond. Je me sentais découragé, trahi, mais je pensais que tout n'était pas perdu. Nous avions mené une belle campagne ces derniers mois, et presque tous les élus locaux qui m'avaient apporté leur soutien m'avaient assuré qu'ils ne me lâcheraient pas. Ron et Carole étaient moins optimistes. « Désolé de te dire ça, boss », a déclaré Carole, « mais la plupart des gens ne savent toujours pas qui tu es. Merde, elles non plus, ils ne la connaissent pas, mais bon, sans vouloir te vexer, hein. Alice Palmer, ça sonne quand même vachement mieux sur un bulletin de vote que Barack Obama. » Je comprenais son argument, mais je leur ai dit que nous irions jusqu'au bout, même si un certain nombre de personnalités en vue de Chicago me poussaient soudain à jeter l'éponge. Et puis, un après-midi, Ron et Carole ont débarqué chez moi, tout essoufflés. On aurait dit qu'ils venaient de gagner au loto. « Les parrainages d'Alice, » a dit Ron. « Ils sont catastrophiques, jamais vu pire. Tous ces blagues qui voulaient dégager de la course à coups de pied au cul, ils ne se sont même pas donné la peine de faire le job correctement. Elle risque de se retrouver inéligible. » J'ai jeté un coup d'œil aux signatures que Ron et notre équipe de bénévoles avaient rapidement passées en revue. C'était vrai. les feuilles de parrainage d'Alice semblaient remplies de signatures invalides. Des gens dont l'adresse était située en dehors des limites de la circonscription, des signatures multiples correspondant à des noms différents mais avec la même écriture. Je me suis gratté la tête. « Je ne sais pas trop, les amis. »«
Tu ne sais pas trop quoi ?» a demandé Carole.
« Je ne sais pas si c'est comme ça que je veux gagner. Enfin bon, oui, bien sûr, je suis furieux à cause de ce qui s'est passé. Mais ces règles d'éligibilité sont vraiment absurdes. Je préférerais la battre à la régulière, dans les urnes. » Carole s'est raidie, la mâchoire crispée. « Cette femme t'avait donné sa parole d'honneur, Barak. On a tous bossé comme des chiens sur la foi de cette promesse. Et maintenant qu'elle essaie de te la faire à l'envers, et qu'elle n'est même pas fichue d'y arriver, tu vas la laisser s'en tirer à bon compte ? Tu crois qu'ils hésiteraient une seule seconde à te mettre hors jeu s'ils en avaient l'occasion, eux ?» Elle a secoué la tête. « C'est pas possible, Barak. T'es un type bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on croit en toi. Mais si tu laisses passer ça, tu ferais aussi bien de retourner enseigner ou de faire autre chose, ce que tu veux. Parce que dans ce cas, t'es pas fait pour la politique. Tu vas te faire bouffer tout cru et personne n'en sortira vainqueur. » Je me suis tourné vers Ron, qui s'est contenté d'opiner d'une voix égale. Elle a raison. Je me suis reculé sur ma chaise et j'ai allumé une cigarette. Je me sentais flottant. J'essayais de déchiffrer ce que me disait mon instinct. À quel point étais-je motivé ? Je me suis rappelé tous les grands projets que je pensais pouvoir mettre en œuvre si j'étais élu, tout le travail que j'étais prêt à abattre si la chance m'en était donnée. « Ok », ai-je fini par lâcher. « Ok !» s'est exclamée Carole, retrouvant instantanément son sourire. Ron a ramassé ses papiers et les a fourrés dans sa serviette. L'élection n'aurait officiellement lieu que 2 mois plus tard, mais dès lors que j'avais pris cette décision, l'affaire était pliée. Nous avons déposé un recours auprès de la commission électorale de Chicago, et quand tout le monde a compris que celle-ci allait se prononcer en notre faveur, Alice s'est retirée de la course. Au passage, nous en avons profité pour écarter d'autres candidats démocrates dont les parrainages n'étaient pas conformes. Je n'avais plus d'adversaires dans les rangs démocrates, et le candidat des Républicains n'était là que pour la figuration. Les portes du Sénat de l'Illinois s'ouvraient à moi. Quant à mes nobles idéaux sur les pratiques politiques, ils n'étaient manifestement pas à l'ordre du jour. J'imagine qu'il y a des leçons utiles à tirer de cette première campagne. J'ai appris à tenir compte des rouages de la politique, de l'attention aux détails qu'elle exigeait à chaque instant, du labeur quotidien, ingrat et répétitif, qui pouvait faire toute la différence entre la victoire et la défaite. Cela m'a également permis de vérifier une chose que je savais déjà. Peu importe que je préfère jouer dans le respect des règles, je n'aimais surtout pas perdre. Mais la leçon que j'ai retenue plus que tout autre n'avait rien à voir avec les mécanismes de la campagne ou la violence du combat politique. Elle était liée au coup de téléphone que j'ai reçu de Maya à Hawaï, un jour de début novembre, alors que je n'avais encore aucune idée de la tournure qu'allait prendre cette élection. « Son état s'est aggravé, Bert, » m'a annoncé Maya. « C'est-à-dire ? » ?»« Je crois qu'il faudrait que tu viennes tout de suite. » Je savais déjà que l'état de ma mère s'était dégradé. Je lui avais parlé quelques jours plus tôt et j'avais perçu dans sa voix une souffrance et une résignation inédites. J'avais aussitôt pris un billet pour me rendre à Hawaï la semaine suivante. « Elle peut parler ? » ai-je demandé à Maya. « Je ne crois pas. Elle n'est plus consciente que par intermittence. » J'ai raccroché, puis j'ai appelé la compagnie aérienne pour changer mon billet et prendre le premier vol du lendemain. Ensuite, j'ai appelé Carole pour annuler les événements prévus dans les jours à venir et faire un point rapide sur la poursuite de la campagne en mon absence. Quelques heures plus tard, Maya m'a rappelé. « Je suis désolé, mon chéri, maman est partie. » Elle n'avait jamais repris connaissance, m'a raconté ma sœur. Maya, assise à son chevet, était en train de lui lire à voix haute un recueil de contes quand notre mère s'en était allée doucement. Nous avons organisé une cérémonie cette semaine-là, dans le jardin japonais derrière l'East West Center de l'Université de Hawaï. Je me suis remémoré les heures que j'avais passées pendant mon enfance à jouer dans cet endroit, pendant que ma mère, assise au soleil, me regardait me rouler dans l'herbe, grimper sur les marches de pierre et attraper des têtards dans le ruisseau qui coulait en bordure du jardin. Puis Maya et moi sommes allés à Coco Head, disperser ses cendres dans la mer du haut du promontoire, parmi les vagues qui venaient se briser contre les rochers. Et j'ai pensé alors à ma mère et à ma sœur, toutes seules dans cet hôpital, et moi qui n'étais pas là, accaparé par mes grandes ambitions. Je savais que jamais je ne pourrais rattraper ce moment,
En plus de mon chagrin, j'éprouvais une immense honte.